franceinter.fr.
Il est 7h41 sur France Inter. Alain Baraton, Alain Beaugrain du Bourg sont là. François-Régis Gaudry va arriver. Je vous salue. On commence par vous, mon cher Baraton.
Vous voulez.
Depuis 2010, il est possible, paraît-il, de voter. Alors ça, c'est intéressant, pour désigner l'arbre européen de l'année.
Eh oui, une bien belle initiative qui permet de mettre en lumière un arbre d'exception. Alors pour voter, il vous suffit d'aller sur le site Arbre européen de l'année, mais dépêchez-vous, le vote sera clos le 28 février.
Ah, ouais.
Les résultats seront annoncés le 21 mars lors de la cérémonie de remise des prix au Parlement européen à Bruxelles.
Je sais bien que le vote est secret, mais est-ce que vous pourriez quand même nous dire pour qui vous allez voter?
Bah écoutez, j'hésitais entre deux arbres et c'est vrai que le choix est très difficile. Et donc j'ai vraiment hésité entre le chêne Brymon, il vit au Pays de Galles et représente le Royaume-Uni, et le Zamana du parc de l'habitation Céron en Martinique qui représente la France.
Et le premier est âgé de 500 ans, c'est
et
ça?
Eh oui, ce chêne est absolument magnifique. Il était en 2015 menacé par la construction d'une route. Un agriculteur, Marvin Jones, eh bien, s'est mobilisé avec succès et il a obtenu de l'Assemblée galloise que le tracé de cette nouvelle route qui menaçait vraiment la survie de ce végétal, eh bien, que le tracé de la route soit modifié.
Alors,
il est réconfortant, voyez-vous, que des élus respectent les vieux arbres.
Vous hésitiez, nous confiez-nous?
Et pourtant, je vais voter pour l'arbre français. Alors, pas seulement pour des raisons patriotiques, mais aussi et surtout pour des raisons botanique, esthétique et historique. Le Zamana de l'habitation Céron en Martinique a déjà été élu arbre de l'année 2016 en France par le magazine Terre Sauvage et l'Office National des Forêts. C'est vous dire combien il est beau.
Mais il est originaire des Antilles, c'est pas...
Alors le Zamana, l'essence, elle, est originaire d'Amérique du Sud et il a été introduit pour ombrager les plantations de cacao et de café. Et écoutez bien, Patricia,
mais
ça va vous plaire.
Toujours. Parce tout le monde vous écoute là. Ils sont tous, vous savez que tous les auditeurs sont à l'arrêt.
Ah ben, je ne sais pas.
Quelle que soit leur activité.
Je ne sais pas, mais par contre, il est vrai que je découvre les mystères du monde végétal et j'apprends tous les jours certains détails, comme sur ce végétal que l'on appelle arbre de pluie. Et il s'appelle ainsi parce que lorsqu'il pleut, ses feuilles se replient sur elles-mêmes, ce qui fait que la pluie va tomber au pied du végétal, pouvoir arroser directement les racines de l'arbre.
Il est malin.
Quand il a cessé de pleuvoir, les feuilles retrouvent leur position normale, recréent cet ombrage indispensable et limitent l'évaporation de l'eau. C'est intelligent, hein.
Il a quel âge?
Eh bien, alors ce Zamana est âgé de 300 ans. Il a survécu aux tempêtes, aux cyclones, aux colères de la montagne pelée. Et Dieu sait si elles peuvent être terribles et meurtrières. Il a même résisté, voyez-vous, à la bêtise humaine.
Ça, c'est peut-être le plus dur. Où est-ce qu'on peut le voir?
Alors, l'habitation Céron est un domaine situé sur la commune du Prêcheur en Martinique. Et je crois que c'est dans le nord de l'île. Alors, une fois sur place, on ne peut pas le rater. Et ce, pour deux raisons. La première, il est l'emblème du lieu. Mais surtout, comment voulez-vous ne pas apercevoir un arbre dont la ramure couvre près de 5000 mètres carrés. C'est absolument exceptionnel. 5000 mètres carrés, c'est incroyable. Alors, pour le voir, le mieux, c'est d'aller sur Internet. Vous allez voir la photo. Vous faites tout simplement arbre européen de l'année ou trees, European trees of the year. Yes. Voilà. Mais vous verrez, c'est un arbre et vous en profiterez également pour les autres arbres en compétition. Je rappelle que ce vote a l'avantage de mettre vraiment en avant les arbres. Tous les pays européens ne participent pas encore, mais il y en a déjà 16. C'est un bon début.
Ah bah oui, puis c'est une belle, je trouve que c'est une belle idée.
Tout à fait.
Macha est une auditrice, elle a un massif qui sera planté de fleurs au printemps. En attendant, faut-il le bêcher?
Eh bien, oui et non, je ne sais plus vraiment quoi dire.
Je ne peux pas croire une chose pareille.
Si,
que vous soyez dans le doute, Baraton.
Eh bien, vous allez comprendre, parce que là, je vais en plus aller dans votre sens. Le bêchage permet, il est vrai, d'ameublir la terre et de faciliter la plantation au printemps. Mais quand vous bêchez, vous mettez à mal toute la faune qui vit dans la terre. Le ver de terre, il creuse, il se fait des galeries. En un mot, il peut respirer sous terre, d'autant plus qu'il a un appareil respiratoire qui lui permet, il est adapté. Mais quand vous remuez la terre, eh bien vous pouvez le tuer. Mmh. Vous le tuez parce que vous risquez de l'asphyxier. Or, le ver de terre, il a des fonctions extrêmement importantes. Il aère le sol, facilite la circulation de l'eau, etc. etc. Et il n'y a pas que le ver de terre, il y a quantité d'autres bestioles. Alors, le labourage et pâturage qu'on nous a appris à l'école, souvenez-vous, je crois que c'était Sully.
Les mamelles.
Oui. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, on remet gravement en cause. Il paraîtrait même que pour les champs de céréales, je pense aux champs de blé, il est préférable de griffer simplement la surface de la terre et de semer. Le blé s'enracinerait davantage et produirait du grain de meilleure et de qualité et de plus grosse quantité. Donc, bêcher un massif, je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il faut simplement maintenant lui donner un petit coup de binette. On le griffe en surface, on plante les fleurs indépendamment à la houlette. Ça suffira grandement et on évite donc de faire du mal à toutes les bestioles qui vivent sous terre, parce que ces petites bestioles, on en a besoin.
Oui, mais Patricia n'est pas une bêcheuse, vous savez.
C'est vrai.
Mes camélias sont en bouton et j'ai peur que le froid qui revient ne compromette la floraison. Qu'en pensez-vous ? Vous demande Sacha.
Alors, il faut distinguer le camélia qui vit en pleine terre avec le camélia qui vit en pot. Le camélia qui vit en pot sera beaucoup plus sensible au froid que celui qui vit en pleine terre. Mais là, je parle du végétal. Le camélia est capable de supporter des températures très basses, moins 15, moins 20 degrés. Les plus beaux camélias se trouvent à Nantes. Nantes n'est pas réputée en hiver pour la douceur de son climat. Il peut y avoir des hivers très rigoureux. Alors, le camélia est une chose, la floraison en est une autre. Généralement, ce qui tue les fleurs de camélia, c'est la sécheresse de l'atmosphère. Beaucoup d'auditeurs, tous les ans, écrivent en disant « Je ne comprends pas, mon camélia était prometteur, et puis les bourgeons ont séché, sont tombés, pas une fleur. » Ça, c'est dû à la sécheresse de l'atmosphère. Il suffit donc de pulvériser de l'eau sur le feuillage pour favoriser le fleurissement. Mais ce n'est pas la question que vous avez posée. Donc le froid peut parfois avoir des conséquences sur la floraison. Parfois non, je ne peux pas en dire davantage. Le mieux c'est d'attendre et de voir.
Pourquoi la taille dite à la marquise est-elle ainsi nommée dans les jardins historiques, nous demande Jessica. On aurait pu demander à notre ami Henri-François de Breteuil, qui nous écoute d'ailleurs tous les week-ends.
Que l'on salue et qui n'est peut-être pas capable de répondre à cette question, parce que beaucoup de spécialistes s'y sont penchés et n'ont pas encore trouvé la véritable réponse. La taille à la marquise, c'est une taille architecturée qui permettait, paraît-il, aux marquises de se promener, protéger les rayons du soleil. Vous savez que sous Louis XV, eh bien, on détestait se promener.
C'était vulgaire d'être bronzé.
Eh bien, tout à fait. Donc c'était une taille qui, paraît-il, permettait aux marquises de se promener loin du soleil. Voilà une petite explication. L'occasion de rappeler, au fait, on parlait de l'habitation Céron à la Martinique, c'est à vérifier, mais je suis en train de me demander si c'est pas dans cette région de cette belle île que Madame de Maintenon, parce que je pensais aux marquises, a vécu une partie de sa jeunesse.
Ben ça, on vérifiera. C'est pas impossible. Pas vous dire. Bien. Avez-vous un truc pour éviter l'éclaircissage des carottes après le semis, voudrait savoir Léora.
Eh oui, beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore l'expérience de nos grands-parents pour semer les carottes, ne comprennent pas pourquoi les carottes au printemps, quand on va les récolter, ou plutôt en été, sont trop fines et ont différentes formes, sont trop proches les unes des autres. Il n'est pas facile de distancer les petites graines. Vous savez, on a parfois ce que l'on appelle la main un petit peu lourde. Eh bien, il y a une technique toute bête et toute simple des vieux jardiniers, qui consiste, et écoutez bien Patricia, à mélanger les graines de carottes et de radis, voyez-vous. J'explique. Vous mettez l'ensemble en pleine terre. Les radis en
Comme ça, quand vous allez récupérer vos légumes, vous savez pas du tout ce qui vous sort, si c'est une carotte ou un radis.
Vous n'êtes pas capable de distinguer les feuilles des radis.
C'est très différent. Oui, les feuilles de radis sont
brouillées. Ça n'a absolument rien à voir. Et l'avantage, en retirant le radis, vous laissez donc un espace vide qui permettra le bon développement de la carotte.
C'est pas bête
comme technique. Donc on mélange tout simplement. Alors si vous n'avez pas de radis, vous n'aimez pas les radis, vous pouvez mettre du vieux café, ce genre de choses. Mais c'est une manière effectivement de distancer les graines pour éviter que lorsqu'elles germent, elles ne se dérangent entre elles.
Mon cyclamen a perdu toutes ses feuilles, est-il condamné, vous demande Germaine.
La feuille pratique, la photosynthèse, permet aussi au végétal de respirer et est la source principale de captation de l'eau, car les feuilles agissent comme des petites pompes. Pas de feuilles, pas de vie, c'est clair. Donc il va mourir.
Bien, oui. Bon, bah voilà, c'est sympa.
On peut le dire autrement.
Oui, on va le dire avec un peu plus de délicatesse. Oui. Attention, à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Ils ne sont pas pour autant morts, mais ils se sont mis en dormance. Quand un cyclamen n'a plus de feuilles, c'est qu'il va mourir.
Est-ce que vous avez un conseil de lecture ou de promenade à lui donner ?
Non, oui, un conseil de lecture. Petits jardins actuels. Alors, c'est un ouvrage signé Noël Kingsbury, un grand spécialiste de la question. C'est publié aux éditions Ulmer. Un très bel ouvrage, joliment agrémenté de photos. 25 euros. Pour tout savoir, ou presque, et comment, surtout, concevoir son petit jardin.